Et puisque vous êtes à peu près le seul au monde à en fabriquer, j'imagine que vous avez un marché à l'étranger également.
Oui, nous avons un marché pour la plupart des contrées nordiques.
C'est très, très exigeant, perfectionniste.
Il sait quand une affaire est bonne ou une affaire l'est moins.
Quelque chose d'une fierté d'avoir son nom sur ses produits Bombardier.
C'est un homme qui aimait à s'amuser, mais surtout à travailler.
Il était persévérant, puis il gardait sa belle compatibilité. Hein.
Joseph Armand Bombardier, au-delà de l'inventeur. Épisode 3. Sortir des sentiers battus.
J'ai participé aussi à plusieurs voyages avec M. Morelli, entre autres à Bécomo. Nous avons arrêté à plusieurs places pour visiter différentes choses.
M. Bombardier décida de faire un voyage pour essayer cette machine sur la neige du Nord. M. Bombardier et mon père sont demeurés 3 jours à la mission. À peu près tous les Indiens ont essayé cette machine qu'ils ont trouvée merveilleuse.
Et à un moment donné, il me fut permis de l'accompagner dans un voyage longue distance. Il est chemin de Québec au Château Fontaine, où Armand devait rencontrer un représentant de la compagnie Price Brothers. Pour prouver que son auto-neige était suffisamment pratique, il a proposé à M. Armand Bombardier de monter son auto-neige dans la glissoire. Armand a fait sa démonstration avec succès.
M. Bombardier n'est pas quelqu'un qui mise beaucoup sur la publicité au courant de sa vie et encore moins au début, parce que c'est des dépenses considérables.
Raphaël Bourgeois, responsable des collections au Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier.
Il croit fermement que la meilleure façon de démontrer l'efficacité d'un véhicule, c'est de lui-même le tester, faire des démonstrations. Comme ça, ça convainc les gens officiellement. Il n'hésitera pas d'ailleurs au courant de sa vie à se promener un peu partout au Québec avec ses véhicules. Il va s'arrêter souvent dans les petites municipalités, stationner le véhicule pas loin des bureaux de presse. Donc, les journalistes finissent leur journée. On voit un véhicule un peu étrange dans le stationnement. M. Bombardier est tout prêt à leur faire une démonstration, l'essayer, tout ça. Souvent, il va obtenir un article dans un journal local, par exemple. Et ce, gratuitement. Donc, pour lui, c'est vraiment une façon efficace.
Deux hardis citoyens de Valcourt ont entrepris l'audacieux voyage en auto jusqu'à Québec. M. Armand Bombardier et A. Grand Prix de Valcourt réussissent l'exploit. Les trois amis ont voyagé dans un confort irréprochable et ont parcouru 500 000 sans difficulté. Mais il faut admettre que leur auto était d'un genre particulier. Il est muni de 2 traîneaux à large lisse qui remplacent les roues de devant. Cette transformation permet à l'automobile de franchir n'importe quelle bande neige. Ils ont fait le voyage à une moyenne de 25 à 30 000 à l'heure, et la machine peut filer à une vitesse de 35 à 40 000 à l'heure.
En 1940, un premier vrai problème arrive dans la vie de Joseph Armand Bombardier, c'est la Deuxième Guerre mondiale. M. Bombardier a déjà commencé à recevoir ses pièces de véhicules pour fabriquer ses véhicules prévus,
que les moteurs seront rationnés par le gouvernement canadien.
Il va être pris avec des carcasses d'autoneige B7 et ne peut pas vendre le véhicule non plus, même s'il le voulait, parce que la production civile est bloquée, les gens qui veulent un véhicule, par exemple un médecin, doivent obtenir une autorisation du gouvernement pour faire une demande à M. Bombardier. Donc, c'est très difficile pour lui à ce moment-là. Les affaires allaient bien, plein de beaux projets, mais il faut qu'il arrête sa production civile.
Il y a des mouvements qui nous dépassent. La Seconde Guerre mondiale, personne à ce moment-là pouvait savoir l'incidence qu'elle aurait sur le développement d'une entreprise.
Jean-François Nadeau, historien et journaliste.
On ne peut pas savoir non plus quelles vont être les capacités d'approvisionnement d'un produit ou d'un autre dont on a absolument besoin pour développer. On ne peut pas savoir à l'avance quels sont les capitaux qui vont nous être disponibles. On ne peut pas savoir à l'avance quels sont les gens qu'on va croiser sur notre parcours et qui vont faire en sorte que quelque chose se réalise ou non.
La guerre nous a fait un tort assez considérable, a ralenti notre production et puis nos ventes, parce que les autoneiges comme les automobiles ont été contrôlés dans le temps et seuls les médecins de campagne pouvaient obtenir un permis pour se procurer un autoneige.
Il ne veut vraiment pas faire de mise à pied, puis encore moins arrêter ses activités. Donc, il va se tourner vers l'armée canadienne pour leur indiquer qu'ils fabriquent des véhicules qui peuvent circuler sur la neige. L'armée canadienne va rapidement s'intéresser au véhicule B-7 et M. Bombardier était justement en train de commencer à fabriquer un véhicule élargi du modèle B-7 qui était le modèle B-12. B-7 et B-12, pourquoi? Pour Bombardier 7 et 12 passagers. Donc, ça peut être des véhicules intéressants pour transporter les troupes.
Et ça, ça lui a permis de parfaire ses connaissances au niveau véhicule à chenille.
Serge Bombardier, petit-fils de Joseph Armand Bombardier.
Et là, la chose qu'il a commencé à faire simultanément en 1948, hein, a fait des recherches sur des véhicules à chenilles, le B5, le C4, après ça le BT, qui était Bombardier Truck hein, pour l'exploitation forestière.
La guerre nous a surtout servi à expérimenter, en effet, dans d'autres domaines, à prendre une expérience des affaires que nous n'avions pas. Et c'est ce qui explique un peu le grand essor qu'on a pris après la guerre.
Après la Seconde Guerre mondiale, Joseph Armand Bombardier va avoir l'occasion d'acheter un terrain d'environ 8000 acres dans les cantons de l'Est, principalement à Kingsbury. Ça vient quand même à quasiment l'ensemble du village de Kingsbury, qui est une petite municipalité des cantons de l'Est. Ça vient aussi avec environ 17 maisons, commerces de Kingsbury. C'est quasiment un village fantôme, par exemple. Ça vient avec le droit d'électrification aussi, avec les barrages. Du lac Brompton, entre autres, de la rivière au Saumon. Ça vient quand même avec des choses intéressantes. M. Bombardier avait dans la tête, évidemment, d'utiliser l'électricité pour ses besoins, pour une nouvelle usine, entre autres, un centre de recherche, un laboratoire de recherche à Kingsbury en 1947 pour justement faire des recherches de nouveaux produits. Ils vont vraiment faire mille et un tests là-bas.
Il pouvait passer la semaine, donc il partait à Kingsbury. Il restait tout seul dans son appartement du deuxième étage. Puis il revenait la fin de semaine à Valcourt.
Il se fait un peu moins déranger là-bas, peut penser à des idées, penser à toutes sortes de choses.
Là, ils ont commencé à faire toutes sortes de patentes, à expérimenter sur les véhicules à chenilles. Puis mon père me disait toujours, mais c'était un des prototypes du skidoo. Hein. Alors, pour moi, comme tout prototype, hein, faut en faire plusieurs avant d'arriver vraiment au véhicule.
M. Bombardier va arriver à la fin des années 40, va mentionner aux employés, écoutez, on va commencer à couler de l'aluminium.
Et à ce moment-là, ils ont commencé à faire les recherches sur le moteur d'aluminium pour le petit autoneige qu'ils voulaient créer.
Plus qu'on fait de pièces, plus que c'est efficace. C'est un peu la pensée de Joseph Armand Bombardier. Il va se mettre à vulcaniser du caoutchouc. Vulcaniser, c'est quoi? C'est vraiment le procédé pour fabriquer du caoutchouc. Le but de vulcaniser, c'est le fait que les autoneiges, donc B7, B12, étaient des chenilles qui n'étaient pas sans fin, qui étaient vraiment attachées avec un joint d'acier, qui faisait que la chenille pouvait se rompre. Donc, lui-même va créer un système de vulcanisation circulaire pouvant faire une chenille sans fin. Il va y arriver et va équiper ses véhicules de cette chenille-là. Et on va commencer à fabriquer toutes les pièces de caoutchouc qui vont dans les véhicules, dans le but d'être le plus autonome possible aussi. D'ailleurs, parlant d'autonomie, au courant de sa vie, lui-même va fabriquer plusieurs machines-outils, dont une presse en 1940, une presse hydraulique. Avant ça, les roues de véhicule, c'était des roues à rayons, un peu comme une bicyclette. Lui-même va faire sa presse pour faire des roues en fonte, pleines. Comme ça, la neige ne pouvait pas s'accumuler. C'est le genre de choses au courant de sa vie qu'il va faire lui-même. Machine-outil, fabriquer des choses.
La plupart du temps, lorsqu'il essayait quelque chose, ça ne fonctionnait pas. Donc, l'échec, ça n'existait pas. C'était juste des apprentissages constants. Et finalement, tout ça, avec les années, il essayait différentes choses. C'est en 1953-54 qu'on a fait un véhicule industriel qui s'appelle le Mosquée.
L'emprise internationale, la représentation internationale du Québec se fait par des figures du monde des arts, de la finance en partie aussi, mais c'est rare. Les entreprises à caractère individuelles comme les celles de Joseph Armand Bombardier à tout d'un coup jaillir sur la scène internationale. C'est des figures d'exception.
Nous avons, dans les années 52-53, eu une demande spéciale pour la prospection des puits de ville de l'Alberta du Nord canadien. Et nous avons développé à cette date un tracteur construit avec, sur le même principe que l'autoneige et avec la plupart des mêmes matériaux.
M. Bombardier va être à l'écoute, va aller voir aussi ce qui se fait ailleurs, au Canada, par exemple. Va aller parler avec des gens dans le milieu des champs pétrolifères, va fabriquer des véhicules pour ce marché-là, mais aussi va commencer à exploiter le marché plus forestier.
Et nous avons développé à cette date un tracteur construit avec, sur le même principe que l'autoneige et avec la plupart des mêmes matériaux. Ce tracteur s'est avéré efficace et nous en avons fait un succès remarquable.
Ils ont commencé à vendre ça partout au Canada et dans le monde entier. C'est un véhicule à chenilles pour aller sur le sol meuble. Tu sais, lorsqu'on parle de tourbière, puis on parle de terrain mou. Donc, il y a eu le Mosquée, je pense en 1953. Après ça, il y a eu le J5. Après ça, il y a eu le SW.
Le tracteur que nous construisons est un tracteur léger, avec beaucoup de puissance, mais une surface portante de 6200 pouces carrés. Ce qui veut dire que le tracteur pèse moins qu'une livre au pouce carré sur le sol.
C'est vraiment des tracteurs très efficaces dans les années 50 que M. Bombardier va mettre au point. Au point même qu'en 1956, lors d'une entrevue à Radio-Canada, Joseph Armand Bombardier va mentionner que sa plus grande réussite est le tracteur Muskeg. Dans les années 50, après avoir développé des tracteurs, mais aussi peaufiné ceux-ci pour les développer de différentes façons, pour encore là combler des besoins, parce que il faut se rappeler que M. Bombardier a vraiment un objectif en créant les véhicules, c'est lui-même le dit si bien, la nécessité est la mère de l'invention. Donc, on est là pour combler un besoin. On ne veut pas créer un besoin. On veut juste répondre à la demande des clients, tout simplement. C'est ça sa mission.
Armand Bombardier, le Henry Ford du Québec. La nécrologie nous apprenait récemment que M. J. Armand Bombardier est décédé dans un hôpital de Sherbrooke à l'âge de 56 ans, à la suite d'une longue maladie. Cette chronique ne nous dit pas cependant les immenses services que M. Bombardier aura rendus, non pas à sa petite localité ou même à la communauté canadienne-française, mais dans une certaine mesure, à l'humanité tout entière.
Il va être reconnu, il va avoir des reconnaissances, il va être nommé grand chevalier de l'Ordre Saint-Grégoire, c'est une reconnaissance de l'Église. Il va remporter un prix du Gala du Commerce, donc on le reconnaît pour ce qu'il fait. Il va être l'homme du mois en 1959 de la revue Commerce. Mais vraiment, on sent que sa reconnaissance principale va arriver vraiment au moment de sa mort. C'est là qu'on va se rendre compte qu'il est de la même trame, par exemple, qu'un Edison ou d'un Ford. D'ailleurs, il y a un article dans la presse qui va être écrit « Joseph Armand Bombardier, le Henry Ford du Québec ». C'est là qu'on se rend compte à quel point que créer une multinationale, quelque chose d'énorme qui va avoir une incidence après pour les années suivantes. Mais on le réalise peut-être moins dans le moment où qu'il est vivant.
Eh bien, alors, vous avez donc un bel avenir devant vous, n'est-ce pas, monsieur? Bien, on vit dans l'espérance, et puis l'espérance nous mène loin. Mais de toute façon, depuis le commencement, c'était un peu ce qui s'est produit. Les premiers automèges n'étaient pas très prometteurs. J'entends que le marché ne semblait pas être très, très intéressant. Et puis, à mesure que l'affaire s'est développée, les marchés se sont agrandis, et puis l'équipement a été amélioré. Et aujourd'hui, les gens achètent un autoneige comme on achète un automobile. Ils savent ce que ça peut faire, ce que ça fait. Et puis, ils savent d'en avoir pour leur argent. Et ce qui compte.
C'était le troisième épisode de la série Joseph Armand Bombardier, Au-delà de l'inventeur. Avec la participation de Raphaël Bourgeois, Jean-François Nadeau et Serge Bombardier. Une série originale produite par le Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier et réalisée par Magnéto. Musique originale, Midi Cayenne. Avec les voix de Laurence Dauphinet et Jean-Moïse Martin. dans le prochain épisode.
Durant la Seconde Guerre mondiale, comme une partie de la production des véhicules militaires se font à Montréal, il se fait inciter à incorporer l'entreprise et déplacer la production à Montréal. Mais pour lui, c'est impensable parce que tout a débuté à Valcourt et qu'il se sent redevable à la communauté, ceux qui lui ont donné un coup de main, qui lui ont permis de débuter les activités.